affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, il va être question de passion, de pulsion, d'amour, de désir, d'abjection, de séduction, d'illusion, de trahison et peut-être même de rédemption. Non, nous n'allons pas parler de l'élection présidentielle, nous allons explorer cette autre grande affaire humaine qu'est l'amour toujours. Cet amour qui crée la vie, qui la perpétue, qui la tient debout, qui lui donne des couleurs, la rend finalement digne d'être vécue. Pour ce faire, nous aurions pu convoquer des psychiatres, des sociologues, des neurologues, des psychanalystes, mais nous avons finalement bien mieux. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio un romancier, en la personne de Jean-Marie Rouard de l'Académie française, qui depuis toujours a exploré ces thèmes, comme le prouve d'ailleurs son actualité éditoriale. Je vais commencer par préciser que sont publiés en ce début d'année deux ouvrages. Le premier, une sélection des livres de Jean-Marie Rouard consacrés, des romans de Jean-Marie Rouard consacrés à l'amour et au pouvoir, avec une préface de Philippe Tesson dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Et enfin, et nous allons nous concentrer sur cet ouvrage, un roman inédit intitulé Une jeunesse perdue, publié lui chez Gallimard. Jean-Marie Rouard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai utilisé des mots un peu lourds, presque grossiers, abjection, séduction, trahison, rédemption. Finalement, en les prononçant, je me demandais si ce n'était pas une mauvaise introduction pour un roman, parce que finalement, les romans ne sont pas des livres à thèse, même s'ils ont un thème. Peut-être que la meilleure façon de présenter ce roman, c'est d'abord d'en fixer le cadre, les protagonistes et l'histoire, car dans un roman, ce qui compte avant tout, c'est l'histoire, non ?
C'est pas seulement l'histoire. C'est la façon de la raconter. Vous savez, Hannah Arendt, la grande philosophe, disait « Je considère que ce qui est supérieur à tout, aux grandes théories philosophiques, aux grandes idées, c'est une histoire bien racontée. » Et elle citait l'exemple de Karen Blixen. Eh bien moi, mon but, c'est d'essayer de bien raconter des histoires. Et quand on raconte bien une histoire, eh bien, elle peut avoir un contenu qui vous enrichit, qui vous éclaire. C'est ça le but du roman. C'est que le roman, c'est quelque chose qui permet d'éclairer la vie dans ces zones que finalement, on explore très peu dans les essais. Le problème de l'amour, de la mort, de ces... Bon. Et surtout, c'est surtout les problèmes de la... En ce qui me concerne, le problème de la passion, de l'amour, comme destin, parce que rencontrer quelqu'un, c'est aussi un destin, et ça peut vous entraîner vers le malheur, ça pose tous les problèmes de l'existence. Et c'est pourquoi, évidemment, les romanciers se consacrent énormément à l'amour, c'est pour ça que moi, peut-être, j'ai un penchant pour les femmes fatales. Les femmes fatales, c'est-à-dire ces femmes dont le héros du livre sait très bien cette femme va le faire souffrir, qui va vivre 1000 morts, et en même temps, il va être très heureux parce qu'il va éprouver des émotions formidables.
Oui, le malheur et le bonheur sont ainsi mêlés. Pouvez-vous nous présenter cette rencontre entre ces deux personnages et nous les camper ?
Alors, disons, le thème du livre, c'est une question que tout le monde connaît, c'est le vieillissement. C'est-à-dire, c'est un homme qui a tout pour lui, qui a vraiment une très belle carrière. Et il est très, très envié dans le monde entier. C'est un grand directeur d'une grande revue d'art. Mais seulement, il a le sentiment de vieillir. Alors, je n'ai pas dit son âge, parce que, justement, ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment du vieillissement, ça peut arriver à 40 ans. Ou bien ça n'arrive jamais. Moi, je connais des gens de 90 ans qui ne se sentent pas du tout vieux. Lui, il se sent vieux. Et à ce moment-là, il décrypte toute la vie à travers ce sentiment. Vous savez, la peur de vieillir, l'angoisse de vieillir, c'est quelque chose de terrible. Parce que ça touche à une chose essentielle, finalement, dans les relations humaines, c'est la séduction. La séduction, le fait d'être désiré par quelqu'un, ce qui est déjà un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Vous savez, vraiment, je trouve que qu'une femme ait subitement envie de vous prendre dans ses bras, de vous embrasser et de faire bien d'autres choses, moi, je trouve ça sensationnel. Parce que c'est vraiment inimaginable. Alors, il y a des gens qui trouvent ça normal. Moi, j'ai jamais trouvé ça normal. Et à partir d'un certain âge, et c'est ça le problème, c'est qu'on commence à se dire « Mais je ne suis plus fait pour l'amour. Les femmes ne me désirent plus. » Alors, ils regardent, ils les observent et ils ont l'impression qu'elles sont indifférentes. Ce qui est quelquefois quelque chose de parfaitement subjectif. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bref, c'est le cadre, si vous voulez, de mon personnage, ce narrateur. Et il va bien entendu tomber, heureusement pour lui, sur une jeune femme dont il a refusé un article. Il n'avait pas vu sa photo, il n'avait pas vu que c'était une femme ravissante. Et quand elle vient vers lui, à ce moment-là, eh bien... il va sentir tout de suite que cette femme peut lui apporter ce qui lui manque, c'est-à-dire ce sentiment d'être aimé, la jeunesse. Mais c'est mettre la main dans un engrenage absolument terrible et il va s'y jeter éperdument.
Oui, car elle comprend d'emblée, car ce personnage, faut-il le préciser, c'est aussi peut-être pour ça qu'il a ce sentiment si aigu du drame que peut-être le vieillissement, est extrêmement lucide. Il est lucide sur lui-même, peut-être même trop sévère, lucide peut-être même trop sévère sur sa carrière et ce qui lui a permis de tenir le haut du pavé, mais malgré tout, malgré cette lucidité sur lui-même, sur les autres, sur la nature de la personne qu'il a en face de lui, il se laisse prendre par cet engrenage, presque volontairement.
Oui, oui, oui. Non, parce que il place au plus haut la passion. Et à mon avis, il a raison. C'est en cela qu'il me ressemble un peu. Et alors, vous me dites que je critique la société, l'imposture. Alors, je vais vous faire une confidence. J'ai pensé à quelqu'un. Je pensais à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui était un grand ami à moi, qui était Maurice Reims, qui justement était dans ce monde de l'art. Même si ce livre n'est pas une autofiction, hein, c'est un livre. C'est un roman, même s'il y a des éléments personnels. Eh bien, et Maurice Reims, avec cette distance formidable vis-à-vis de ce monde dans lequel il avait fait, qu'il avait conquis, enfin, il avait une place très très importante, mais il n'était pas dupe. Il savait très bien qu'au fond, dans la vie, on doit sa réussite à beaucoup de chance, beaucoup de hasard. Et donc, il avait un petit regard un peu cynique sur ce qu'il y a. Mais c'est vrai que le roman, enfin, son but, c'est de montrer ce lien qui va se créer entre un homme vieillissant, qui a le sentiment que la vie lui échappe, l'essentiel de la vie lui échappe, et puis cette jeune femme, très séduisante, qui a un passé, qui est russe, qui s'appelle Valentina, et qui a un passé très chargé, puisque toute sa famille a été prise dans toutes les... la déségrégation de
l'ancienne Russie.
De l'ancienne Russie, enfin bon. Et voilà, et elle-même... Elle est un peu trouble. Elle est à la fois bipolaire, mais en même temps, c'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Voilà. D'ailleurs, elle va un peu le draguer. Enfin,
c'est une femme, femme.
C'est une femme, je dirais. Je crois que toutes les femmes ne sont pas sur ce modèle.
Heureusement.
Il y a des femmes qui sont un peu timorées, un peu timides, qui ont beaucoup de pudeur. Celle-là a moins de pudeur, peut-être, que les autres. Mais ça n'empêche pas qu'elle soit très séduisante.
Vous avez utilisé le terme de cynisme, déclaré que le personnage qui est le narrateur, et qui n'a pas d'âge, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de prénom non plus, tant et si bien qu'on on peut se projeter en lui, donc
voilà,
ça renforce cet aspect archétypal.
C'est ce que j'ai voulu. Vous savez, un roman, il a deux créateurs. Il a celui qui l'écrit et il a le lecteur. Et moi, je fais tout pour que le lecteur puisse s'identifier et vivre, au fond, parce que c'est ça que ça sert, là, un roman, au fond. C'est de pouvoir s'identifier et de vivre tout ce qu'on ressent, de sentir, ou tout ce qu'on aurait pu ressentir dans la même circonstance. Donc, en effet, je l'ai laissé suffisamment précis pour qu'on adhère à lui, et il y ait de la compassion et quand il souffre. Mais en même temps, j'ai voulu le laisser suffisamment... flou ne pas trop le dessiner.
Je reviens à cette idée de cynisme. De fait, il n'est pas dupe. Il est lucide, il n'est dupe d'aucune vanité. Et en même temps, les personnes qui ont ces qualités-là, généralement, peuvent tomber réellement dans une forme de cynisme dur, d'exploitation des autres. Lui, c'est le contraire. Il conserve une forme de candeur. C'est-à-dire que cette façon de voir le monde tel qu'il est, lui donne une forme de candeur, une capacité à continuer à s'émerveiller qui est rafraîchissante, finalement.
Oui. Ben, c'est peut-être, alors là, c'est peut-être l'aspect autobiographique. Je suis à la fois, je ne dis pas revenu de tout, mais je crois être assez lucide. Mais en même temps, je continue à m'émerveiller. Je continue à être passionné. Je continue à quand je vois une belle fille dans la rue, ben, à la regarder. Et parfois même à me demander si je n'aimerais pas que ça aille plus loin. Voilà. Bon, enfin, je ne veux pas vous raconter ma vie. Mais c'est vrai que ce genre de situation, eh bien, je les recherche. Au fond, je n'ai pas renoncé à l'amour. Et je crois que quand on renonce à l'amour, on renonce à la vie.
Mais qui renonce à l'amour ?
Il y a des gens qui renoncent à l'amour. Il y a des gens qui ont peur de souffrir. Et ça, c'est peut-être ce qui me distingue, si vous voulez, dans la vie. Je n'ai jamais eu peur devant le romanesque, devant les situations qui pouvaient m'entraîner. D'ailleurs, vous savez, il y a une situation qui peut vous entraîner dans beaucoup de souffrance, c'est d'écrire. Déjà, pour se lancer dans le roman, dans l'écriture d'un livre, il faut être très courageux, hein, parce que vous allez vraiment de difficulté en difficulté, difficulté avec les éditeurs, difficulté avec vous-même, parce que c'est très dur. C'est très dur, et puis vous êtes un juge très sévère, bien plus sévère que les critiques. Donc, voilà. Et bien, moi, j'ai toujours aimé l'aventure du roman. Et puis, dans la vie, j'aime les aventures. C'est vrai. J'aime le romanesque. Et je suis prêt à payer le prix. Voilà. Parce que je considère que ce sont ces émotions. Et puis, c'est rejoindre, au fond, tout l'univers que j'ai aimé dans mon adolescence, qui sont les romans de Balzac, les romans de Stendhal, les romans de Tolstoï. Voilà. J'aime me retrouver dans une atmosphère romanesque. Et même si je dois souffrir. Et il y a beaucoup de gens qui font tout dans leur vie pour prendre des précautions, pour prendre des garanties, pour éviter de souffrir. Et d'ailleurs, mon personnage, d'une certaine façon, qui s'est marié, il a une femme et il s'est marié avec elle, c'est une sous-préfète, et il s'est dit « formidable, elle est dans sa sous-préfecture, moi je suis à Paris, et voilà, je suis garanti sur le plan de la continuité ». Et puis il va découvrir que finalement, cette garantie est complètement illusoire.
Oui, il a un désir de sécurité en même temps qu'un désir d'aventure.
Oui,
il mais pense ménager des bases arrières.
Ça arrive, vous savez.
Mais on a peut-être tous ça en soi,
oui,
d'ailleurs.
Oui, oui.
D'ailleurs, de même que lorsque il y a ce désir ou cet amour des femmes, on sent que lui aime de façon différente, mais autant son épouse, finalement, que cette aventurière qu'il croise. Mais d'une façon différente, en leur demandant des choses différentes.
Oui, mais vous savez, c'est la complexité dans laquelle peut entrer le romancier et que beaucoup de gens éprouvent. Ils veulent la sécurité et l'aventure. Ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre, comme on dit vulgairement. Mais c'est vrai, et cette nécessité, je crois qu'elle est très humaine, d'ailleurs. Et on pourrait dire que c'est vrai aussi en politique, c'est vrai dans tous les domaines. Les gens voudraient à la fois des assurances, que leur vie ne soit pas bouleversée complètement. On a besoin de... Et c'est pour ça que le mariage a trouvé quand même beaucoup de gens qui en ont accepté quelquefois la chaîne, qui peut parfois être lourde.
Alors, en l'occurrence, ce personnage semble être initialement dans la maîtrise. On sent que c'est quelqu'un qui a maîtrisé sa vie professionnelle, qui a organisé même sa vie conjugale de façon à conserver cette sécurité, et que s'il a pu vivre diverses aventures auparavant, tout cela était sous contrôle. Dans cet ultime roman, puisqu'il prend la suite de tous les précédents, c'est la perte de contrôle total.
C'est la passion. Mais je crois que cette passion, elle est à l'image de notre vie. Une vie qui n'aurait pas de passion, est-ce que ça serait une vie ? Moi, je ne crois pas. Donc, c'est une passion et ce qui m'a intéressé, au fond, c'est ce que vous avez appelé à la déchéance. Mais ça, c'est social, parce que la déchéance, quelquefois, soi-même, on ne la vit pas comme ça. Pour lui, il va de plus en plus dans les émotions. Et c'est qu'il va entretenir avec cette femme des liens d'argent. C'est-à-dire qu'il va découvrir que pour la garder, il est obligé de la payer. Et ça, évidemment, vous imaginez bien, quand il avait 20 ans, il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il paierait une femme. Et c'est il ne pouvait pas imaginer, c'est imaginable, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est qu'il va accepter de plus en plus de lui offrir des sommes de plus en plus importantes pour qu'elle reste là. Alors, elle est un peu vénale, même très vénale.
Totalement.
Mais en même temps, c'est quelque chose qui est supérieur à la vénalité. C'est un jeu érotique entre eux, parce qu'il y a un mystère entre l'amour et l'argent. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez, allez rue de la Paix, allez place Vendôme, vous verrez tous les manteaux de fourrure, vous verrez toutes les robes, tout ce qu'il peut y avoir, qui fait qu'il y a dans l'amour des éléments d'échange. Enfin, il ne faut pas être, non plus être naïf. Mais ça n'empêche pas l'amour. Ça n'empêche pas l'amour. Et ça n'empêche pas qu'on veuille se duper. Parce que très souvent, on veut se duper. On sait très bien que quelqu'un ne vous aime pas vraiment. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer ? Mais on a besoin de cette personne et on est prêt à se mentir et à passer par tous ces désirs pour pouvoir la garder.
Vous parlez de sorte de jeu qui s'instaurait entre eux, y compris par le caractère tarifé de leur relation ou transactionnel. À un moment, il déclare « le plus menaçant, entre parenthèses, le plus excitant, c'était d'être totalement entre ses mains ».
Oui, parce que subitement, eh bien, vous savez, il n'a plus de libre arbitre. Il est complètement... cette femme le tient, mais en même temps, c'est formidable parce qu'il n'a plus à choisir. Vous comprenez, quelqu'un qui n'est pas amoureux, ben, il ne sait pas très bien ce qu'il va faire le soir, ce qu'il va décider la journée. Cette liberté lui pèse. Tandis que là, eh bien, il n'a qu'un objectif, c'est voir cette femme, faire l'amour avec elle et connaître les plaisirs érotiques qu'elle lui donne. Et en même temps, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour. Cette passion érotique, c'est une forme d'amour. Moi, je crois que c'est une... Parce que ça l'élève. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé, au fond. C'est de montrer cet infini de la passion. Cet infini de la passion qui fait qu'un homme, eh bien, cherche quelque chose qui va même presque au-delà de l'amour. C'est pour ça que vous parliez d'une forme d'initiation spirituelle. C'est vrai que par l'amour, on peut arriver à quelque chose de supérieur, quelque chose qui est de l'ordre du divin.
Il y a de fait un glissement de la part du personnage. Au départ, il est assailli certes par le désir. Il explique que la vision des jeunes femmes au printemps à Paris lui est une torture. Mais au-delà de ce désir pour le corps des jeunes femmes, il y a aussi un désir de séduire, un désir d'être désiré, et qui finalement aboutit, quelques centaines de pages plus loin, comme vous le disiez, à une relation tarifée. Cela pourrait être scandaleux.
Je ne dirais pas, une relation tarifée. Tarifée, c'est ce qui se passe avec les prostituées. Vous employez là le terme. Là, ce n'est pas une prostituée, c'est une femme qui joue avec l'argent et qui demande de l'argent, mais c'est plus une courtisane qu'une prostituée. Ça n'a pas ce caractère quand même mécanique et effroyable de la prostitution. Et alors, beaucoup de gens se sont étonnés, parce que vous savez que j'ai mené un combat en faveur des prostituées. J'ai même préfacé le livre noir de la prostitution, puis j'ai beaucoup aidé les associations dans leur combat contre la prostitution. Et alors, beaucoup de gens m'ont demandé, mais c'est curieux, à la fois d'avoir cet engagement vis-à-vis des prostituées, en faveur des prostituées, essayer de les comprendre. Ce qui est d'ailleurs un engagement chrétien, d'ailleurs, parce que c'est les gens qui s'occupent des prostituées, en général, il y a beaucoup de prêtres et beaucoup de chrétiens. Et en même temps, dans votre livre, de justifier, au fond, ce lien d'argent entre un homme et une femme. Et là, je dis, écoutez, moi, je me sens, comme romancier, complètement libre. Même libre vis-à-vis de moi-même. Je ne veux pas faire de morale quand je fais un roman. Ce que je veux, c'est une exploration, c'est comprendre. C'est une curiosité, une folle curiosité pour comprendre l'être humain. Et je plonge en moi-même et je trouve en moi-même des choses qui ne sont pas reluisantes, mais que j'ai pu connaître d'ailleurs. Mais à travers ça, ce qui m'intéresse, c'est toucher au mystère de la nature humaine. C'est ça qui est important.
Et puis il y a peut-être une grande différence, c'est que dans la prostitution, c'est la prostituée qui était la prostitution telle qu'on peut la connaître dans des lieux dédiés, c'est la prostituée qui est assujettie, alors qu'ici c'est tout l'inverse, c'est voilà. Elle qui a le pouvoir.
Voilà, voilà, exactement. Oui, oui, non, c'est une courtisane. Mais écoutez, vous connaissez bien ces courtisanes, la Paiva qui avait fait construire sur les Champs-Élysées un magnifique hôtel particulier, enfin, et toutes ces horizontales qui ont mené les hommes par le bout du nez et qui les ont ruinés, donc ce qui est un peu le cas de mon personnage.
Vous évoquez la morale, de fait, votre personnage est probablement au-delà de la morale, plus qu'il n'est immoral, mais ce qu'il sauve peut-être aussi finalement, y compris dans un regard moraliste, et vous êtes un moraliste malgré tout, malgré les apparences de l'histoire, c'est un livre extrêmement moral, c'est peut-être que c'est tragique finalement, si ça se terminait bien, si cette personne jouissait simplement de son pouvoir pour assouvir ses désirs sans se mettre en danger, l'histoire ne serait pas du tout la même, et le regard que l'on porterait sur lui, pas du tout le même non plus.
Oui, mais vous savez, tout se termine mal, parce que la vie se termine mal.
Donc, ça, c'est prévu.
Et l'amour se termine mal, parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Chateaubriand. Il disait « Faites que la jeunesse demeure, que la beauté reste, que l'amour ne se puisse lasser, et vous reproduirez le ciel. » Ben voilà, ben oui, ça serait l'idéal, mais hélas.
Mais c'est ce que fait le personnage. Il prouve que ça continue, que ça peut se poursuivre. En tout cas, il est dans cette quête.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il essaie de maintenir à la fois, d'éviter cette chute terrible qui est le fait de ne plus sentir un corps désirable. Mais c'est vrai aussi que ce que je décris, tout le monde le ressent quand on voit au moment du printemps toutes ces jeunes filles à moitié dénudées qui sont là dans la terrasse des cafés. C'est vrai, j'ai essayé de décrire au fond un homme tout à fait normal mais qui voit cet appel extraordinaire de la sensualité qui est lancé par beaucoup de jeunes femmes. Vous voyez, et donc il sait très bien qu'il en est, il est mis à l'écart.
Il le croit du moins.
Oui, il le croit. Mais enfin, finalement, heureusement, il va tomber sur Valentina.
Alors, autre trait de ce personnage, c'est que qui contribue à nous le rendre extrêmement sympathique, c'est qu'il semble dépourvu de passions négatives. C'est quelqu'un qui reste en toutes circonstances d'une grande élégance. Choisir un terme parmi d'autres qu'on pourrait lui appliquer.
Vous croyez que c'est l'aspect autobiographique ?
Ah, écoutez, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez, mais je serais tenté de le croire. J'ai compris maintenant qu'il y avait des aspects autobiographiques dans ce livre, mais je n'osais pas le dire d'emblée.
Non, mais, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans le secteur de l'autofiction, c'est-à-dire raconter une histoire avec tout ce qui vous est arrivé, avec tous les détails, le ticket de métro, le machin, les notes du gaz, voilà. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, c'est vrai que j'utilise ce qui m'arrive, notamment ce type de passion qui a pu m'arriver, mais je le réorchestre pour essayer d'atteindre non pas la véracité, mais la vérité. Voilà. Et puis, j'aime y ajouter, le réorchestrer en y rajoutant des éléments disons, qui rajoutent du romanesque. Voilà. Mais le fond, je l'ai éprouvé, je l'ai vécu. Hein, je vous le dis entre nous, ne le répétez pas.
Dans sa préface au recueil que j'évoquais en début d'émission, Philippe Tesson cite une phrase de Dreux-La Rochelle. Je vais la citer, elle éclaire peut-être ce que nous sommes en train de dire. « Je ne renonce pas à rêver ma vie, mais je prétends si vivre mes rêves. » C'est un petit peu ce qui arrive au personnage, non ?
Bien sûr, mais vous savez, c'est important les rêves. C'est pour ça que les romanciers sont des adolescents, continuent ces rêves de l'adolescence. D'ailleurs, quand Bernard Pivot avait réuni pour sa dernière émission... des auteurs qui étaient passés plusieurs fois chez lui, il nous avait demandé à chacun de prendre un mot, notre mot préféré de la langue française. Moi, j'avais choisi le mot adolescence. Et je crois que c'est très important parce que quand vous voyez, que ce soit chez les peintres, chez les écrivains, chez les sculpteurs, ils viennent tous au fond, et on le voit même chez Flaubert particulièrement, eh bien, leur rêve d'adolescence... ils ont essayé de les réaliser dans l'âge mûr. Et il y a cette part, justement, l'artiste n'est pas un adulte. Adulte au sens, c'est pas quelqu'un qui a renoncé à vivre ses rêves, c'est quelqu'un qui continue à tout prix à vouloir les vivre. Et nous pouvons les vivre dans la vie. Il les vit à travers ses romans. Et ça, c'est frappant chez Stendhal. Quand vous pensez que Stendhal, qui était un gros balourd, que les femmes n'aimaient pas, qui prenait que beaucoup d'échecs avec les femmes, eh bien, il s'est transformé en Fabrice Del Dongo, en Julien Sorel, qui sont des garçons extrêmement minces et séduisants. Les femmes tombent comme des mouches. Et donc, si vous voulez, c'est ça. C'est ça le roman, ce qui fait naître, au fond, le désir du romanesque. C'est le rêve de ne pas abdiquer ses rêves.
Il est quand même un peu atteint de bovarisme, votre personnage, non ?
Tout le monde, écoutez, tout le monde. Tout le monde veut embellir sa vie par des rêves, par le fantasme. Vous savez, ce fantasme, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il est beaucoup plus fort chez les femmes. Les femmes ont une nature beaucoup plus fantasmatique que les hommes. Les hommes sont, et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus intéressantes que les hommes, et qu'elles lisent beaucoup plus de romans que les hommes. Parce que elles ont un sentiment de frustration, d'abord parce qu'elles ont peut-être plus de lecture, et puis elles ont ce sentiment qu'au fond, elles ont plus de raffinement et elles ont le sentiment que, peut-être plus de sentiments aussi, elles ont le sentiment que la vie n'aura pas apporté tout ce qu'elles désiraient. Et donc ça les amène à cette réflexion. Alors, la caricature, c'est Madame Bovary, mais Anna Karénine, qui est un personnage merveilleux, elle aussi rêve, sinon elle ne serait pas tombée amoureuse de Vronsky.
Cela signifierait-il que cette aventurière russe, la Valentina, joue un jeu également pour elle-même, qu'elle n'est pas seulement avide, vénale, mais que tout ce théâtre de vie fantasque qu'elle organise autour du personnage, ce n'est pas que pour l'enserrer dans ses liens, mais aussi pour vivre à sa façon.
Tout à fait. Mais vous savez, moi, j'aime donner leur chance, non seulement à mes personnages, mais dans la vie, à tout le monde. Parce que je trouve que c'est peut-être le côté la culture chrétienne. C'est de croire qu'il y a une part divine dans chaque être. Et c'est pour ça que j'ai mené ce combat en faveur des prostituées, parce que vraiment, qui sont rejetées, qui sont détestées, qui sont vraiment, on ne peut pas dire que leur sort, c'est vraiment un esclavage moderne. Mais je crois que dans chaque être, il y a une lumière divine. Et dans chaque être, il y a la possibilité de se racheter, et la possibilité, au fond, très souvent, c'est lié à des conditions sociales, c'est lié à des conditions psychologiques. Et là-dessus, la psychanalyse nous a beaucoup évoqué, à des traumatismes. Donc, si vous voulez, moi, j'aime chercher justement cette petite lumière qui brille chez les êtres au cœur de la dépravation. Voilà, parce que je crois que, finalement, j'aurais pu être à leur place. Voilà, je me dis, vous savez, je crois que tout est une question de circonstances. La liberté que nous avons, bien sûr, il faut y croire, cette liberté. Mais en même temps, c'est vrai que les conditions, il y a une sociologie qui fait que dans certaines circonstances, et on le voit bien, parce que quand les valeurs sociales disparaissent pendant les guerres, on voit bien qu'il y a des gens très convenables qui se comportent d'une façon extrêmement douteuse.
En même temps, on n'échappe pas tout à fait à son milieu, non ? C'est un des autres thèmes qui traverse votre roman. Est-ce que je peux faire une courte lecture d'un...
Oui, bien sûr, mais enfin, là, je vous dirais que si, moi, je crois que l'art, c'est justement échapper à son milieu. Que moi, je crois qu'à partir du moment où on est un artiste, et même un amoureux, c'est le point commun, on échappe à son milieu, parce qu'on est dans quelque chose qui vous amène à l'infini.
Pour un certain temps, non ?
Non, je crois pas.
Bon, écoutez, je suis heureux d'entendre cette parole... lumineuse. Lors d'une des multiples péripéties qui arrive à ce personnage passionné, il donne toutefois une définition du bonheur qui, elle, n'est pas adolescente. On a l'impression que, certes, il veut revivre cette adolescence, les brûlures de l'adolescence, la passion de l'adolescence, mais avec quand même l'épaisseur et la sagesse que donne une vie déjà derrière soi. Voici cette définition du bonheur. Un bonheur tissé de compromis, de non-dits, d'acceptation des petites médiocrités de l'existence, avec ses innocentes prévarications, ses accommodements avec la morale, le viol en douceur des inhumains règlements, ce souple et gentil laxisme qui rend la vie tolérable.
C'est une sorte d'éloge du compromis. Non, je crois, vous savez, qu'on peut accepter certaines compromettre. Vivre, c'est accepter de se compromettre. Parce que c'est évident. On pourrait dire d'ailleurs que dans tout le corps, il y a une sorte d'harmonie qui naît de la compromission. Mais une vie, il y a quand même un peu de raison. Et la raison, c'est une forme de compromission avec ses rêves et ses exigences. Mais moi, j'ai les deux. C'est vrai que j'ai cet aspect, pour être franc avec vous, cet aspect que j'accepte à la fois la vie sociale avec ses formes d'injustice. Et en même temps, j'essaie de dépasser cette vie sociale par la pensée. Et il me semble que justement, c'est ça qui m'intéresse. C'est que, vous voyez, je suis sensible aux moines de Tibérine, je suis sensible à tous les gestes qui hissent l'homme au-dessus de lui-même. Donc, et tous les héros, au fond, moi, ce que j'ai aimé, c'est, j'aurais d'ailleurs consacré souvent des biographies, c'est Napoléon, c'est-à-dire des gens qui sont au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus du compromis, ce sont des grands aventuriers, des gens qui ont montré ce que l'homme pouvait, était capable de faire, au plus haut niveau, si vous voulez, de l'esprit.
Oui, voilà, dans la définition qu'on a donnée, on est plutôt dans une morale civilisée, des sentiments polis, non seulement par une vie, mais par des siècles de civilisation, le fait qu'on n'est plus dupe des emportements, en même temps qu'on s'y laisse séduire, et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce personnage, c'est qu'il a vraiment un pied dans deux mondes.
Il est double. Mais il est double, mais nous sommes tous doubles.
L'autre point qui semble frappant, c'est que vous avez parlé d'échéance de fait, il est une déchéance, si on observe, progressive, les aspects matériels de son existence, puisqu'il donne tout. Mais justement, n'est-ce pas là encore, ce qui le sauve, lorsque une morale petite bourgeoise l'observerait vraiment comme un nigo qui se fait avoir par la première aventurière venue, lui au contraire en tire une jouissance d'ordre spirituel, puisque à plusieurs reprises il dit « je suis dans la dépossession ».
Oui, parce que la passion, et c'est pourquoi toute la société essaie de s'organiser contre la passion. La passion, c'est antisocial. C'est contre la société. Subitement, Proust l'a merveilleusement montré. Et je dois dire, moi, peut-être, moi, j'étais très marqué par Proust, et surtout par cet aspect, si vous voulez, de la suspicion générale. Suspicion de la société générale. Et d'ailleurs, à un moment, il y a mon personnage fait refaire un meuble par un ébéniste et puis il découvre un tiroir secret dans ce meuble. Et puis il découvre dans ce tiroir secret des lettres d'amour de son épouse. Bon, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces tiroirs secrets, parce que je me rends compte que, font, eh bien, ces tiroirs, il n'y en a pas seulement un, il y en a deux, il y en a trois, et que les êtres ont ce caractère de multiples personnalités. Là encore, selon les circonstances. Et ça, je trouve ça très romanesque et je trouve ça très riche. Moi, il me semble que c'est justement le roman apporte quelque chose qui est, disons, auquel ne répond pas la société. La société répond à des choses positives. Elle répond à ce désir de stabilité que nous avons tous. Elle répond à ce désir d'harmonie entre les hommes. Mais c'est vrai que la passion et l'art, qui sont toujours aussi à la fois dans la société et contre la société, apportent quelque chose de supérieur. Voilà, montrent à cette société qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs spirituelles supérieures à ces valeurs un peu normatives de la société.
Pour le personnage et peut-être pour vous également, qui sait, on sent qu'il y a un respect justement de ces tiroirs secrets, de ces parts de nous-mêmes qui sont enfouies, qu'on ne met pas sur la table, mais qui existent, dont chacun peut pressentir d'ailleurs, parmi les gens que nous fréquentons, nos proches, qu'ils existent, mais que la sagesse consiste à laisser masquer justement. On est loin de la passion contemporaine pour l'exigence de transparence qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, à la fois public et privé, non ?
Oui, c'est vrai, mais enfin, là, la transparence, c'est le romancier, finalement, va même au-delà de la transparence, puisqu'il essaie de chercher très profondément au fond, ce qui amène les hommes, ce qui les fait agir, ce qui est d'une certaine façon le moteur de leur existence. Et moi, je crois que c'est l'émotion. L'homme a besoin d'émotion, il a besoin de sensations fortes, on le voit bien. Enfin. Et il est tiraillé entre ce désir de stabilité et en même temps ces sensations qui l'emportent.
La transparence, sinon vous en pensez quoi, ce désir aujourd'hui de mettre toujours tout en pleine lumière, en permanence, de considérer que chaque secret, ou jardin secret même, serait une entorse faite...
Moi, je trouve que c'est une atteinte à la liberté. Je trouve que, sur le plan politique, alors là, je trouve que c'est une grave atteinte. Je crois qu'un être, on n'a pas besoin de tout révéler d'un être. Il y a une part qui doit rester mystérieuse. Sacrée. Voilà, c'est une part sacrée. Mais ça, c'est en politique. Même si, attention, la transparence... Pour les élus, c'est vrai que je trouve ça normal quand même qu'un homme qui est élu, qui a l'usage des fonds publics, montre son patrimoine, montre ce qu'il a, qu'il n'y a pas d'enrichissement invraisemblable. Voilà. Mais je ne suis pas dans trop de morale, vous savez. Moi, je suis un peu, même très gaulliste. Et de Gaulle considérait que ce qui était important, c'était l'État, c'était une forme d'ordre. Que donne l'État, mais qu'il ne faut pas trop rentrer dans la République des juges. D'ailleurs, ils s'en méfiaient énormément. Il n'était pas dans ce désir de juridisme dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Dans cette trajectoire, il y a aussi d'autres personnages qui apparaissent. Je voudrais que vous évoquiez celui de la cuisinière fidèle qui épaule le personnage... jusque dans ses malheurs, avec une forme de bon sens presque tellurique, au fil des péripéties, que pas par hasard qu'il est apparu ce personnage et que vous lui donnez autant de chair, comme ça, par petites touches. Que représente-t-il ?
Bien, elle représente, au fond, à la fois la voix populaire, voilà, parce que mes personnages se déroulent dans un milieu... Le milieu de la grande bourgeoisie, de l'argent, voilà, parisienne. Et là, c'est le milieu populaire, la Bourgogne. Et en même temps, le bon sens est une forme de folie, puisque cette femme, comme les bonnes bourguignonnes, eh bien, elle adore la magie, elle adore les choses. Et alors, à un moment, le roman va un peu entrer dans une phase mystérieuse où il va y avoir de la magie noire, enfin voilà. Bon, mais enfin ça c'est un aspect, c'est l'irrationnel. Parce que j'ai voulu, vous savez, l'irrationnel est essentiel dans la vie artistique et je voulais un personnage qui justement incarne cet irrationnel. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais et qui sont d'un ordre magique. Voilà, donc c'est ce point de magie qu'elle apporte.
Il y a un moment d'ailleurs où le personnage fait la distinction entre la réalité et la vérité.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer cette différence entre la réalité et la vérité.
Oui. Ben oui, c'est-à-dire que c'est très important, c'est la clé artistique. Vous savez, quand vous écrivez ou quand vous peignez, il y a un tableau de Manet qui est extraordinaire, qui s'appelle le Bar des Folies Bergères. Qui est un de mes tableaux préférés, qui est à l'Institut Courtauld à Londres. Eh bien, la perspective n'est pas bonne. Quand vous voyez, il y a une femme qui est là, qui est une jeune femme, qui a l'air triste, et qui se fait draguer par un gros monsieur, bon, un peu dégoûtant, bon. Et puis il y a le bar qui les sépare. Eh bien, la perspective, il y a une glace. Eh bien, la perspective est complètement faussée. Et c'est la vérité qu'il a emportée chez Manet. La vérité, et c'est un tableau magnifique, et on se fiche complètement que ce soit pas complètement, disons que la perspective, il est bafoué les lois de la perspective. Eh bien, en matière romanesque, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est pas la véracité, c'est la vérité. C'est quelque chose dont nous avons énormément besoin, cette vérité, parce que c'est quelque chose qui est universel, la vérité. La véracité, bon, quelle importance. C'est quelque chose que les choses soient justes ou pas justes. Et d'ailleurs, Napoléon, qui est un de mes héros préférés, eh bien, avait très bien compris qu'au fond, la véracité ne comptait pas. Est-ce que Arcole, qui est vraiment au bord d'une défaite, on en a fait un mythe. Est-ce que vraiment, ça valait d'être un mythe? Non, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire sur le plan historique pour lui, pour conforter à la fois son image qu'il voulait faire. Donc, je crois que les grands hommes d'État sont des artistes. Et comme écrivain, je me sens aussi un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vérité, qui n'est pas de l'ordre du réel, qui est d'apporter dans le réel justement une part de songe, une part de rêve et une part de magie.
Et c'est ce que fait Valentina Orlov avec ce malheureux personnage dont on ne sait pas si elle sera son pont d'Arcole ou plutôt la Bérézina, peut-être la Bérézina puisqu'elle est d'origine russe, mais rien n'est joué avec ce type de personnage. Est-ce que finalement on n'est pas arrivé à la conclusion de cette analyse avec cette distinction entre réalité et vérité? Ce personnage se fiche qu'on puisse penser qu'il se laisse berner, il pense avoir trouvé, lui, la vérité.
Oui, mais c'est cette opposition éternelle, vous savez, entre... toutes les tragédies naissent en effet d'une opposition entre la société et une vérité. Qu'est-ce que c'est qu'Antigone ? Antigone, c'est ça. Antigone, elle choisit sa vérité et contre la société. Je crois que ça, c'est une très ancienne histoire et c'est cette dynamique qui est très riche. Moi, je ne suis pas contre la société. Je trouve que c'est très, très important que cette société soit harmonieuse, qu'elle ait ses lois. Mais il faut bien reconnaître que les écrivains ont apporté... ce sont les écrivains qui ont lutté contre la torture. La torture au XVIIIe siècle, je veux dire, qui était admise par les tribunaux. Bon, ben les écrivains, Voltaire s'est révolté. Bon, même Montaigne. Enfin, c'est formidable à quel point ils ont aidé cette société à prendre conscience de ses turpitudes, de ses horreurs, et que finalement, ils ont amené l'humanité et la société à être finalement beaucoup plus, à comprendre qu'il y avait des valeurs universelles qu'elle oubliait.
Ça nous mène quand même loin des considérations du personnage qui, lui, est dans d'autres types de passions.
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Il est peut-être voltairien par son goût de la liberté, mais on ne le sent pas partir en croisade pour telle ou telle cause. Hein.
Non, mais là, parce que vous évoquiez la société, et c'est vrai que la société, en face d'une passion, eh bien la société ne la comprend pas, parce que cette société, cette passion va déranger. Elle va déranger l'ordre social, elle va déranger elle va créer du trouble, voilà. Mais est-ce que chaque personne n'a pas justement un droit irrépressible à justement vivre ce qu'il a envie de vivre, indépendamment de la société?
Écoutez, c'est ce que nous incite à penser votre ouvrage. Et je précise, pour l'avoir lu, bien évidemment, d'une traite de la première jusqu'à la dernière ligne, que de fait, il nous bouscule, il nous pousse à porter un regard non pas critique, mais introspectif sur ce que nous avons chacun, tous, au fond de nous-mêmes, à penser que la jeunesse n'est pas nécessairement perdue et qu'il ne faut certainement pas renoncer en aucun domaine que ce soit d'ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Marie Rouard, de nous avoir entretenu de cet ouvrage et des précédents. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt pour un tout autre domaine, cette autre affaire que nous évoquions, affaire qui intéresse les hommes, c'est-à-dire les passions du pouvoir et de la politique, avec cet ouvrage dont vous allez nous rappeler le titre et l'éditeur. Un psychodrame français, ça, le psychodrame français.
Le psychodrame français qui est chez Lafon. Mais je voudrais ajouter un mot pour défendre quand même le recueil de 5 livres anciens, avant-guerre, les flux du pouvoir, le scandale. Parce que, disons, dans ces livres, au fond, on peut suivre, et c'est une collection moi, auquel je suis très attaché parce que il y a tellement de beaux livres que j'ai lus dans cette collection que pour moi, c'est très émouvant d'y entrer. Et puis, si vous voulez, au fond, on retrouve un peu tous ces thèmes. La femme fatale, c'est retrouve... Parce qu'un écrivain, au fond, il réorchestre à chaque fois c'est des thèmes qui se mettent dans une lumière différente, dans un contexte différent. Et là, c'est par rapport au pouvoir. C'est vrai que dans une jeunesse perdue, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que le pouvoir d'une femme. Là, c'est dans ce livre, donc les romans de l'amour du pouvoir, il y a le pouvoir politique et la pression qu'il exerce sur les héros.
L'amour toujours, disais-je, en fait, la passion toujours, il est quand même permis de les prendre à rebours, de commencer par une jeunesse perdue et ensuite de se plonger
dans
ce gros recueil. Merci beaucoup. Je précise donc toutes les références de ces ouvrages. Jean-Marie Rouard de l'Académie française, les romans de l'amour et du pouvoir, ça c'est le recueil qui est dans la collection bouquins chez Robert Laffont, et une jeunesse perdue chez Gallimard, le roman dont nous nous sommes entretenus pendant presque trois quarts d'heure. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.